écoutez le Montréal Africain Radio. Voici votre émission Tam Tam Culturel. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, Tam Tam Culturel, c'est une émission donc qu'on fait et qui parle beaucoup de choses. C'est une émission de dialogue où on aborde différents sujets, des sujets variés qui concernent la science, la culture, la politique et tout autre sujet que nous pensons pertinent. Aujourd'hui, nous avons un grand invité avec qui nous allons discuter. Nous allons discuter d'un sujet de l'heure, un sujet d'actualité. Il s'appelle Normand Cornette. Donc, il est professeur. Je l'accueille à l'instant même. Bonjour, professeur Normand Cornette.
Bonjour et merci pour cette invitation, monsieur Diouf.
Voilà. Professeur, je suis très honoré aujourd'hui de vous accueillir ici au Montréal Africain Radio, à votre radio. Aujourd'hui, nous discutons un sujet de l'heure. Vous savez, les élections se sont déroulées, mais avant cela, je veux juste dire que vous êtes professeur, chercheur en sciences des religions. Vous vous intéressez à beaucoup de sujets. Vous êtes critique de l'art aussi. Vous êtes partisan du dialogue qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, nous allons dialoguer sur le sujet des élections fédérales qui viennent de se dérouler tout fraîchement hier. Donc, où il y a eu quand même un peu de surprise avec des gains du Bloc québécois. Et puis vous voulez vraiment aborder un angle, un questionnement sur les raisons du retour en force du Bloc québécois ainsi que l'impact sur ce résultat.
Oui, tout à fait. Et vous faites bien, Monsieur Diouf, de souligner que je suis spécialiste en sciences des religions. Or, ce qui m'avait fortement impressionné tout au long de la campagne fédérale, et là, avec les résultats des élections, c'était à quel point on avait mis l'accent sur la loi 21, qui a concrétisé le principe de la laïcité. Et évidemment, ça interpelle l'auditoire du Montréal Africain Radio. Et qu'est-ce qui est en fait la plaque tournante dans tout cela? C'est qu'on l'a entendu à maintes et maintes reprises, monsieur Diouf, oui, de la part du chef du Bloc québécois, monsieur Blanchet. Or, que disait-il? C'est qu'il y a deux valeurs qui sont non négociables. D'abord, le français, et deuxièmement, la laïcité. Or, ça, c'est un point tournant. Monsieur Diouf, parce que voyez-vous, il maintient que la laïcité fait partie intégrante des valeurs de la société québécoise et de l'identité des Québécois et des Québécoises. Or, il vient là poser en quelque sorte des balises du nationalisme dans l'ère postmoderne, c'est-à-dire 2019, on est bientôt 2020, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors, dans l'histoire du Canada français, comme on l'appelait autrefois, dans l'histoire du Canada français, qui est devenu, n'est-ce pas, qui est le Québec, c'était le catholicisme qui était au cœur de l'identité québécoise, tout comme le français. Mais là, on voit ce changement de paradigme, monsieur Diouf, de sorte que ce n'est plus le catholicisme, mais que c'est bien la laïcité qui remplace, et pour cause, parce que le nationalisme, à toute fin pratique, fait office de religion, ce qu'on appelle dans ma spécialité la religion civique.
Mais comment voyez-vous cette stratégie de se tourner vers le nationalisme? Comment vous l'interprétez?
Mais dans l'esprit du Bloc québécois ainsi que la CAQ, il y a là maintenant une volonté que la société québécoise, du moins dans l'espace public, avec les autorités publiques, qu'elle soit nettement séculière. Et donc le sécularisme, ça a commencé beaucoup, n'est-ce pas? L'élan séculier, c'était lors de la Révolution tranquille, dans les années 1960. Eh bien, aux yeux de ceux et celles qui prônent la laïcité et qui favorisent et qui la loi 21, tout cela, c'est l'aboutissement de la Révolution tranquille. En quelque sorte, il fallait se rendre là pour accomplir le projet de société de la Révolution tranquille, de se défaire du catholicisme en épousant la laïcité.
Donc pour vous, vous pensez que c'est une continuité, donc c'est un prolongement de ce qui a été commencé quand même il y a longtemps, la Révolution tranquille.
Mais tout à fait, très, très bon point d'ailleurs, Monsieur Diou. En fait, il s'agit d'une évolution certaine. C'est le développement du début de la Révolution tranquille. Et puis là, évidemment, il y a eu le Parti québécois, il y a eu deux plébiscites pour l'indépendance, mais j'insiste sur le fait que d'abord, chez la CAQ, avec le premier ministre Legault, il n'est pas question de souveraineté, il n'est pas question d'indépendance, le dossier c'est clos, c'est fermé, on n'y revient plus. Or, ça c'était un point marquant et on voit très bien que, en quelque sorte, le Bloc québécois au niveau fédéral miroite la réalité politique au Québec sur le plan provincial. Mais la ligne de démarcation, c'est que Monsieur Blanchet et le Bloc québécois ne renoncent pas à la souveraineté ni à l'indépendance. Mais qu'est-ce qui a changé, Monsieur Diouf? Il maintient que ça va se faire naturellement, ça va continuer dans cette veine, dans cet esprit, mais tous les deux, le dénominateur commun entre la CAQ et le Bloc québécois, c'est qu'il faut que le Québec s'affirme, qu'elle affirme son identité. Or, cette identité, une des assises de cette identité, c'est la laïcité. Et c'est ça qui a changé. Même s'il n'y avait pas la loi 21, là, M. Blanchet dit haut et fort que le Québec, c'est laïque, les Québécois, les Québécoises sont laïques, favorisent la laïcité, et c'en est même ce qu'on dit en philosophie, c'est un premier principe de la société québécoise. Or, ça démarque le Québec du reste du Canada, parce qu'à combien de fois, M. Diouf, est-ce que M. Blanchet faisait une distinction nette et claire entre le multiculturalisme de Justin Trudeau, des libéraux et le reste du Canada, et en contrepartie, il y avait la laïcité, il y avait une affirmation, une articulation de l'identité québécoise qui, elle, se base sur la laïcité et une laïcité ouverte. Donc, peu importe sa religion ou même sans religion, il y a un terrain d'entente et ce terrain d'entente, c'est la laïcité pour ne pas faire exception, pour ne pas faire distinction entre les citoyens et citoyennes selon leur religion, mais sur le simple fait d'être citoyen du Québec.
Oui, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train de nous entretenir avec le professeur Normand Cornette. On est en train de parler, on est en train de faire une lecture, de commenter les élections fédérales qui viennent de se dérouler ici au Canada. Professeur, j'aimerais vous demander... parce que vous avez dit une chose qui est extrêmement importante, que c'est une forme de poursuite de la Révolution tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, c'est quoi qui va donner du carburant à la machine du Bloc québécois, en l'occurrence avec son chef, ou bien qu'est-ce qui peut le freiner dans cette démarche?
Très bonne question, monsieur Diouf. Blanchet avait l'idée géniale de ne pas se lancer dans des idéologies, dans des théories, dans l'abstraction, mais dans le concret, dans le bien-être de tous ceux et celles qui habitent le Québec, qui font partie de la citoyenneté québécoise. Or, du moment qu'on vise l'amélioration du sort de la population québécoise, on est sur un terrain solide. C'est quand on se lance dans des débats idéologiques, théoriques, abstraits, et tout ce qui compte, c'est la souveraineté, tout ce qui compte, c'est l'indépendance. Eh bien là, on l'a très bien vu, deux plébiscites qui ont échoué, quoi, et qui a coûté. J'ai eu le privilège, monsieur Diouf, de présenter des ateliers idéologiques pendant la période de la charte des valeurs qu'avait proposé le Parti québécois. Et ça, c'était suite à la commission Bouchard-Taylor. Or, j'ai présenté des ateliers idéologiques et avec le philosophe co-président Charles Taylor et avec le sociologue co-président Gérard Bouchard. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que la charte des valeurs est allée trop loin, plus loin que les soucis, les préoccupations de la population québécoise. Et qu'est-ce qu'on a fait dans l'élection provinciale qui a suivi? Eh bien, on a balayé le Parti québécois, mais complètement. Oui. Or, on voit que la CAQ et le Bloc québécois reviennent, mais ils ont mis à jour pour établir un lien plus solide entre les aspirations de leurs partis politiques respectifs et les préoccupations de monsieur et madame tout le monde du Québec.
Oui, c'est tellement intéressant, professeur. Si vous permettez, on va faire une petite pause musicale et on va revenir pour parler des impacts quand même, des impacts et surtout voir avec vous, professeur, si les résultats actuellement du Bloc québécois ont répondu aux attentes de ce parti-là. Donc on écoute un peu de musique et puis on va revenir tout de suite après.
D'accord.
Voilà, Voilà, je rappelle que vous écoutez votre émission Tam Tam Culturel avec le professeur Normand Cornette. Donc, on est en train de parler, de se pencher sur les résultats des élections fédérales qui viennent de se dérouler au Québec le 21, au Canada, pardon, le 21 octobre. Donc, c'est vraiment frais. Professeur, dites-moi maintenant, est-ce que ce sont ces résultats-là que le Bloc québécois attendait? Est-ce que c'est ce scénario-là, avec un gouvernement libéral minoritaire, avec le Bloc qui a triplé ce nombre de candidats, parce qu'ils étaient 12 ou 10, maintenant ils sont 32, malheureusement, le Bloc n'a pas la balance du pouvoir, c'est le NPD qui a la balance du pouvoir aujourd'hui.
Non, pas tout à fait, Monsieur Diou. Oui? C'est-à-dire que le Parti libéral, avec un gouvernement minoritaire, peut tantôt collaborer avec le NPD, peut tantôt collaborer avec le Parti vert, peut tantôt collaborer avec le Bloc québécois. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il n'était que 10, le Bloc québécois. Il n'avait même pas le statut d'un parti officiel. Alors, vous rendez compte, là maintenant, ils ont plus que triplé leurs effectifs. De plus, et c'était ça, c'est ça le génie de Blanchet, de la stratégie du Bloc québécois, c'est que pour nous, il ne s'agit pas de faire des alliances aveugles, mais d'œuvrer pour le bien du Québec, que ce soit avec les conservateurs, que ce soit avec les libéraux, que ce soit avec les NPD. Donc, quand on se donne cette largesse de manœuvre, eh bien, on ouvre toutes les possibilités. Et je crois que c'est là la clé, quand on est terre à terre, quand on est pratique comme ça, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des citoyens et citoyennes du Québec? Et donc, ça lui donne les mains libres. Et ça, c'est très, très important.
Concrètement, professeur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, vous pensez qu'ils vont s'appuyer sur le fait qu'ils ont plus de visibilité pour pousser de l'avant? Il y a un contrepartie, parce qu'on rappelle que aussi au Québec, ils ne sont pas majoritaires, c'est le Parti libéral qui est majoritaire quand même, qui a même plus de députés. Le Parti libéral a 35 députés, mais comment ça va se passer? Comment vous entrevoyez l'avenir proche?
Très bon point. Ouais. Elle est tout à fait valable, M. Diouf, comme question. Dans un premier temps, je suivais attentivement les propos de M. Blanchet alors qu'il faisait campagne, et il parlait avec raison qu'il faudrait aller chercher des fonds fédéraux pour favoriser les études et qu'on place les anciens qui réalisent leurs études dans les universités québécoises, eh bien, qu'on les place et qu'on les soutient en région, parce que ce n'est pas un secret. Il y a, monsieur Diouf, des municipalités, des villes même, qui meurent faute de population. Rappelons que le Québec est une population forte, vieillissante sur le plan démographique, c'est une des populations les plus vieilles en Amérique du Nord. D'où l'envers de la médaille, monsieur Diouf, le besoin absolu des immigrants, des immigrantes, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans le renouveau par l'immigration. Mais ceci dit, puisqu'on a posé les deux pierres angulaires, le français et la laïcité, et de toute évidence, ils vont favoriser l'immigration des francophones et l'éducation des francophones. Aussi, quand on parle de l'écologie, de l'environnement, qui avait une place privilégiée dans cette élection qui a lieu hier, eh bien, le Bloc québécois a mis, mais vraiment, une fin de non-recevoir en ce qui concerne les oléoducs et qu'on passe le pétrole à travers le territoire du Québec. Alors, ça aussi, c'était une préoccupation. Moi, je me souviens du désastre du lac Mégantic. C'était affreux, c'était apocalyptique. Or, il y a une sensibilité écologique envers l'environnement qui est très prononcé et qu'il faut respecter. Et évidemment, ça n'a pas aidé Justin Trudeau et les libéraux qui ont dépensé quoi? 4,5 milliards de dollars pour un projet d'oléoduc dans l'Ouest canadien. Alors, est-ce qu'on parle deux discours pour deux auditoires différents? Au Québec, on parle de l'environnement, mais dans l'Ouest, on va favoriser les industries qui dépendent complètement des ressources pétrolières.
Allez-y,
monsieur Diou.
Voilà. Donc, je voulais juste dire que, est-ce que vous êtes en train de dire que, malgré tout, cette démarche du Bloc québécois est vouée à l'échec à moyen et long terme, vu des conditions objectives de la province, vu que la province est faite d'une population vieillissante et qui n'auront pas le choix de faire appel à l'immigration s'ils ne veulent pas être les dos droit au mur, la buter au mur, le mur.
L'immigration est la pierre de touche, monsieur Diouf. Il n'y a pas d'avenir au Québec sans l'immigration. Et il suffit de regarder les statistiques, il suffit de regarder le taux de vieillissement et de mortalité chez les Québécois traditionnels, Québécois de souche, et un taux si bas d'enfants. Eh bien, l'avenir est tout tracé vers l'immigration. Et cette réalité, on ne peut pas l'éviter. Or, la question n'est pas de dire non à l'immigration, mais plutôt de bien canaliser cette immigration dans une vision francophone et laïque, de sorte qu'il y a un terrain d'entente parmi tous ceux et celles qui habitent le territoire, et peu importe leur origine ethnique, linguistique, religieuse, et j'en passe.
Est-ce que vous pensez que les partis fédéralistes, pensez-vous qu'ils ont fait leur travail de contrer ce discours du Bloc québécois qui les a amenés ici? Pensez-vous qu'ils ont vu ça venir? Est-ce qu'ils ont, bon, beaucoup d'analystes disent que le Parti libéral, notamment, avait choisi d'ignorer le Bloc québécois. Pensez-vous qu'ils ont fait leur travail, ou bien vous pensez qu'ils ont sous-estimé le bloc québécois?
Mais de toute évidence, ils ont sous-estimé le Bloc. Et à quel point le Bloc faisait écho à la CAQ, et qui est toujours, mais vraiment, apprécié dans la faveur de la population québécoise. Donc, ils ont sous-estimé le Bloc, parce que c'est, il n'y a pas si longtemps, le Bloc était à l'article de la mort, monsieur Diou. Ouais. Donc, et ils ont sous-estimé le chef. Quand on parle des débats, que ce soit en français, que ce soit en anglais, il y en avait un chef qui à chaque fois s'est démarqué, et c'était bien monsieur Blanchet. Parce que au lieu de se lancer dans des attaques, se lancer dans un discours négatif, mais c'était beaucoup plus positif. Et vous savez, vous gagnez des appuis quand vous avez un message positif. En revanche, et on l'a vu dimanche, dès dimanche matin, on entendait Andrew Scheer, chef du Parti conservateur. On a entendu aussi Justin Trudeau, chef du Parti libéral. Et on a entendu. Et qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, là, vous voyez, c'est clair et net. Tout ce que le Bloc québécois vise, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, puis ils s'en foutent de l'économie, et ils s'en foutent de l'écologie, de l'environnement. Or, une approche si réductionniste, monsieur Diouf, c'était une erreur majeure, parce qu'on ne peut pas réduire la réalité de la laïcité, la réalité du français au Québec, on ne peut pas réduire le nationalisme à quelque chose de si étroit d'esprit. Elle est d'une richesse, et c'est plutôt qu'il faut modeler cette richesse au profit de tous au Québec, aussi bien les néo-québécois et québécoises que ceux et celles qui sont de souche des Canadiens français, des Québécois traditionnels.
Voilà. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez votre émission Tam Tam culturelle avec le professeur Normand Cornette. En terminant, comment vous entrevoyez l'avenir ici au Québec? Je parle, bon, le moyen terme, le court terme, on le sait un peu, mais comment vous entrevoyez l'avenir du Québec à moyen et long terme en mettant en perspective la situation actuelle?
Mais je vais vous le dire très franchement, monsieur Diouf, je rêve du jour qu'un Africain ou une Africaine d'origine soit Premier ministre du Québec.
Okay. Mais pensez-vous que c'est possible à moyen terme?
Vous savez ce qui me réjouit, monsieur Diouf, quand je suis dans le métro et je vois des minorités visibles des quatre coins du monde qui se parlent, et surtout les jeunes, qui se parlent couramment en français, même si je sais très bien que la langue maternelle, quand il ou elle rentre à la maison, ça peut être l'arabe, ça peut être le vietnamien, ça peut être le mandarin, ça peut être le grec, ça peut être l'italien, et voilà la richesse, et on a une mine d'or, de ressources humaines ici au Québec. Et là, il importe au Bloc québécois, il importe à la CAQ de puiser dans cette mine d'or, de richesse, de jeunesse, d'origine différente, d'origine religieuse, d'origine linguistique, d'origine ethnique différente, parce que on a une formule gagnante. Il faut donc, le défi devant le Bloc québécois et devant la CAQ, c'est de créer une synergie avec ces gens.
Oui, vous savez, le NPD a été complètement balayé du Québec, sauf un seul député. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est l'exemple de la dame, la députée du NPD, je pense que vous la connaissez bien, elle s'appelle Ruth Hélène Brosseau. Un exemple d'intégration,
ah, oui.
C'est une personne qui ne parlait pas le français aucunement, mais qui est parvenue à s'intégrer, à avoir une ferme, à se marier, à dire, même aujourd'hui, j'ai entendu son entrevue, elle dit qu'elle va rester ici. Mais ça, c'est un exemple contradictoire par rapport au mouvement, par rapport au discours de la défense du français du Québec, cet exemple-là,
oui.
Même si c'est un exemple isolé quand même.
Oui, il faut signaler que on avait, n'est-ce pas, en 2011, il y avait la vague orange du NPD. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé depuis? Quand on regarde les réalisations du NPD au Québec, eh bien, elles sont minces.
Ouais.
Et je connaissais quelques-uns des membres du Parlement du NPD. D'ailleurs, j'ai déjà fait un atelier dialogique avec le chef du NPD, le docteur Ed Broadbent. Lui et moi, on a eu un débat d'idées formidable. Mais quelle est la différence? Pourquoi les NPD a perdu tant? Et ils ont tout perdu, sauf un seul, Monsieur Boulris. Pourquoi? Parce que d'abord, il fallait livrer la marchandise, et puis deuxièmement, il fallait avoir un message clair, bien ciblé. Et au lieu de plaire à tous et chacun de côte à côte de la Terre-Neuve à Colombie-Britannique, de sorte qu'on avait plusieurs discours différents, eh bien, il fallait avoir un seul et même discours pour tous. Et voilà la clé du succès de M. Blanchet et du Bloc québécois.
Mais M. Professeur, est-ce que vous ne pensez pas que le turban du leader du NPD a joué dans la balance? Parce que ou pas, il y a un impact de son turban, de sa visibilité du turban. Est-ce que vous ne pensez pas que ça dérangeait au Québec? Au-delà du fait qu'ils n'ont pas réalisé quelque chose ici?
Mais je ne peux pas généraliser. Je m'en doute, oui, que ça a dérangé quelques personnes. Mais si vous lisiez les chroniques, et même pour ceux et les commentaires de ceux et celles qui n'étaient pas favorables à M. Singh, lors du dernier débat, M. Diouf, il est sorti tout le monde. Voyez d'un œil favorable, M. Singh. Il s'est comporté de façon exemplaire lors des derniers débats. Or là, moi, je savais pertinemment, il y avait des gens qui n'étaient pas NPD et qui n'étaient pas pour M. Singh, mais il admirait la force de ses convictions, la clarté de ses communications. Or, vous savez, s'afficher franchement, on devient gagnant en politique. Et qu'est-ce qui a coûté si cher à Justin Trudeau et aux libéraux du Canada? Et j'étais à Vancouver, à l'université Emily Carr, en février dernier, alors que l'affaire SNC-Lavalin a éclaté. Et plutôt de donner une réponse franche et honnête et authentique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné autour du pot et là, on ne pouvait plus leur faire confiance, M. Diouf.
Voilà. Donc, professeur, je rappelle que vous êtes professeur Normand Cornette, professeur et chercheur en sciences des religions. Donc, vous avez fait le tour du monde, vous voyez, pour discuter, pour dialoguer, pour débattre sur beaucoup de sujets. Je suis très, très, très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Et puis, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de parler au Montréal africain aujourd'hui à cette émission Tam Tam Culturel.
Monsieur Diouf, cela m'est un privilège de collaborer avec le Montréal africain.
Et puis, je vous assure que nous allons continuer à dialoguer comme vous l'aimez très bien. Nous allons, on vous l'assure, avec le Montréal africain radio.
Entendu.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Diouf.
Merci, au revoir. Merci.
Au revoir.